VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
15h à Bamako, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par la lutte contre le groupe État islamique, poursuite de la double offensive terrestre et aérienne qui a débuté mardi contre les fiefs de l'État islamique en Irak et en Syrie. Raqqa, le quartier général du groupe en Syrie, et la ville irakienne de Fallujah sont les cibles de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Miley Segal.
Ces assauts sont les plus importants depuis l'annonce par le groupe État islamique d'un califat autoproclamé à l'été 2014. Ils sont menés par des forces entraînées et soutenues par les Américains, les troupes irakiennes et la coalition kurdo-arabe des forces démocratiques syriennes. En Syrie, l'objectif pour l'instant n'est pas de libérer la ville de Raqqa, mais seulement le nord de la province. Au moins 22 djihadistes ont été tués, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les combattants du groupe État islamique utilisent des civils comme rempart. Dans la ville de Fallujah, en Irak, il y a encore 50 000 civils. Des familles pourraient se retrouver prises entre deux feux. Les forces irakiennes resserraient mardi l'étau autour de cette ville à l'ouest de Bagdad. Si le groupe État islamique perd Fallujah, il ne lui restera plus que des zones désertiques jusqu'à la frontière syrienne.
La lutte contre Boko Haram maintenant. Le groupe islamiste nigérien est soupçonné de détenir des centaines de captifs, dont les quelques 200 filles de Chibok enlevées en 2014, dans la forêt de Sambisa, dans le nord-est du Nigeria. Les forces armées nigériennes, aux côtés de celles du Cameroun, mènent des opérations dans cette zone reculée pour tenter de libérer les otages. Mais, comme le rapporte notre correspondant Moki Edwin Kinzeka, depuis Touro au Cameroun, cette forêt présente bien des difficultés pour les soldats engagés dans la traque des insurgés de Boko Haram. Son reportage est relaté ici par Jacques Aristide.
D'une superficie d'environ 60 000 km², la forêt de Sambisa couvre un vaste territoire du nord-est du Nigeria. Difficilement pénétrable en raison d'arbustes épineux notamment, Sambisa a vite attiré Boko Haram, qui a fait de la partie proche avec le Cameroun son repère. Le colonel Boubacar Bakari, l'un des officiers supérieurs de l'armée camerounaise, commande les troupes autour de la forêt.
La forêt de Sambisa, c'est une forêt très très dangereuse. Je pense que c'est le QG de Boko Haram. Parce que beaucoup de Camerounais ont perdu leur vie en essayant de récupérer soit les otages ou bien combattre le Boko Haram.
Les autorités camerounaises ont fait état de 2 soldats tués et 30 blessés depuis le lancement d'une nouvelle offensive en mars dernier. L'armée nigériane a bombardé la forêt et a pu détruire plusieurs camps de Boko Haram, mais l'opération est menée avec prudence en raison des femmes et enfants pris en otage. D'autant que, selon le colonel Bakari, Boko Haram utilise les prisonniers comme boucliers humains. La forêt, dit-il, est infesté de mines terrestres. Mais il y a eu malgré tout quelques bonnes nouvelles. Dans la ville frontalière camerounaise de Touro, des centaines de personnes se sont mobilisées dimanche pour accueillir Habiba Assalé. Boko Haram avait kidnappé cette jeune fille de 16 ans et plusieurs autres il y a 2 ans avant de les emmener dans la forêt. Elle a pu s'échapper la semaine dernière lors d'un raid mené par des soldats nigérians, mais a dû abandonner son bébé derrière.
On était amenés dans un village musulman. Les hommes s'étaient enfuis et nous sommes restés. Ils m'ont forcé le mariage. Le jour suivant, j'ai été transférée à la prison de Sambisa, où il y avait un flux de filles. Ils nous appelaient toutes filles de chez K.O. Vraiment, je ne croyais pas encore à la vie. Je remercie du fond de mon cœur tous les soldats qui ont tout fait pour que je retrouve mon village.
Quant à l'armée du Cameroun, elle ignore le nombre de Camerounais détenus dans la forêt, surtout que des familles, par peur de représailles de la part de Boko Haram ou même d'être stigmatisées par les voisins, ne signalent pas toujours les enlèvements.
Au Tchad voisin, les partis de la plateforme dénommée Front de l'opposition pour la République, le changement et l'égalité, force, ont pu finalement tenir aujourd'hui leur réunion à N'Djamena, une rencontre interdite la veille par les autorités. Ils ont rendu public un document dans lequel ils contestent la victoire du président Idriss Déby Itno à la récente présidentielle et affirment reconnaître seulement les résultats du scrutin collecté par l'opposition. Résultat qui donne la victoire au chef de file de l'opposition, Salé Kebzabo. La plateforme exhorte la population tchadienne à soutenir la formation d'un gouvernement de salut national. Elle demande aussi aux activistes de rejoindre le camp du changement et de l'alternance et de résister au régime en place qui est clairement illégal selon la plateforme.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Crise au Burundi, un policier et un civil ont été tués mardi soir dans la province de Mwaro, dans le centre du pays, lors d'une attaque menée par un groupe de bandits non identifiés, selon les autorités. D'après le gouverneur de la province, cité par l'AFP, le groupe de 4 bandits a attaqué les locaux du parti au pouvoir CNDD-FDD, tuant un policier et le veilleur de nuit. Le gouverneur a précisé que les assaillants avaient aussi blessé 4 autres personnes et emporté la recette du jour d'un dépôt de bière. Toujours concernant le Burundi, fin mardi à Arusha, en Tanzanie, des premières consultations sur la crise burundaise. Le gouvernement Bujumbura a été représenté, mais la session a été boycottée par la plateforme Sénared. Giriteka, la principale coalition de l'opposition en exil. L'ancien président tanzanien William Mkapa, facilitateur dans le conflit burundais, va rencontrer au cours des deux prochaines semaines les protagonistes absents de la session pour poursuivre et achever les consultations. Que retenir de ces 4 jours de discussion? La réponse du vice-président du Front démocratique du Burundi, Frodebu, Frédéric Manvouguignoum-Vira, joint à Arusha par Eric Manira Kiza.
Le médiateur a dit qu'il avait l'intention de comprendre l'essence de la crise burundaise pour qu'il puisse y apporter une médication appropriée. Et puis après, il a dit qu'il entend aller rencontrer le président Museveni pour qu'il puisse échanger avec lui sur ce qu'il a compris de cette rencontre. La suite, c'est qu'il va convoquer une autre session avec la troisième semaine du mois de juin. Alors, il nous a demandé, les responsables de nos organisations, pour bien composer les délégations qui participeraient à cette prochaine session. Alors, il a aussi demandé à ce que nous préparions des mémos pour faciliter justement ce dialogue qu'il entend organiser au mois de juin.
Il y a le Sénared qui a boycotté ces consultations parce qu'elle n'était pas invitée en tant que plateforme Sénared.
Bon, c'est vrai, nous qui étions présents, nous avons plaidé pour que la médiation puisse consulter le Sénared et la médiation a promis de la rencontrer dans les tout prochains jours pour que tout le monde puisse être consulté avant cette session du mois de juin. À cette occasion de la prochaine rencontre, on pourra avoir la feuille de route qui doit orienter ces négociations qui viendront d'ici peu.
Frédéric Banvo-Guignoum-Vira, joint à Arusha en Tanzanie. Afrique de l'Ouest, réouverture de la frontière entre le Sénégal et la Gambie, frontière bloquée pendant des mois par les transporteurs sénégalais qui exigeaient tout d'abord la baisse des droits à payer aux autorités gambiennes pour le transit à travers ce territoire enclavé dans le Sénégal, concession obtenue rapidement de Banjul, puis la construction d'un pont sur le fleuve Gambie pour faciliter la traversée du pays. Selon les observateurs, l'approche du mois du jeûne du Ramadan a certainement contribué à la levée du blocus. Égypte, une cour d'appel égyptienne a annulé les peines de 47 personnes condamnées à 5 ans de prison pour avoir participé à des manifestations non autorisées contre le pouvoir. La justice a toutefois maintenu une lourde amende de 10 000 euros. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme accusent le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi de diriger un régime ultra-autoritaire et de réprimer violemment toute opposition depuis qu'il a destitué en 2013 son prédécesseur islamiste Mohamed Morsi. Et puis le président américain Barack Obama sera vendredi le premier chef de l'exécutif américain en exercice à se rendre à Hiroshima au Japon, une zone évitée par ses 11 prédécesseurs depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'importance de la visite du président Obama est que les États-Unis, seul pays au monde à avoir utilisé des armes nucléaires, et le Japon, seul pays à les avoir subies, vont exprimer ainsi leur forte détermination à réaliser un monde exempt d'armes nucléaires, a souligné un fonctionnaire japonais du ministère des Affaires étrangères. Les bombes atomiques américaines ont été larguées les 6 et 9 août 1945, respectivement sur Hiroshima et Nagasaki, tuant plus de 210 000 Japonais. Un drame indélébile qui n'a pourtant pas empêché le Japon et les États-Unis de sceller l'alliance sans doute la plus solide au monde. Et toujours concernant les États-Unis, mais cette fois les élections américaines, le milliardaire Donald Trump a remporté hier la primaire républicaine de l'État de Washington, se rapprochant ainsi de la majorité de délégués requise pour devenir officiellement le candidat du Parti républicain à la présidentielle de novembre. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.